Bonjour à tous et bienvenue sur Globe Radio pour votre émission Voir l'Afrique avec les yeux du futur. Je suis Sébastien Périmoni, rédacteur en chef du site www.afriquedufutur.com. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet passionnant qui est justement de faire renaître l'Afrique en reverdissant les déserts. Et oui, vous le savez, comme le disait déjà Héraclite d'Éphèse, philosophe grec à la fin du 6e siècle déjà avant Jésus-Christ, il disait que rien n'est permanent sauf le changement. Alors chers auditeurs, chères auditrices de Globe Radio, vous qui aimez voir l'Afrique avec les yeux du futur, cette semaine nous avons décidé de vous faire découvrir un ouvrage fondamental qui est l'ouvrage de Jean-Édouard Butcher, qui est sorti à la fin de l'année 2019 et qui s'appelle « Reverdir le désert du Sahara, des solutions pour un retour à la végétation ». Donc il faut savoir que Jean-Édouard Butcher est un ingénieur qui est issu de l'École Polytechnique Fédérale de Zurich en Suisse. Et il nous rappelle d'abord quelque chose qu'il ne faudrait pas oublier et qui nous montre que rien n'est permanent sinon le changement, c'est que je cite « Entre 10 000 et 5 000 ans avant notre ère, le Sahara était couvert de végétation. Une faune abondante y vivait, une société humaine très développée. Pour l'époque, l'habitée, dont témoignent les peintures rupestres étonnantes, foisonnantes et réparties sur toute la surface du Sahara. Cette civilisation disparut vers 5 000 ans avant notre ère dans un basculement climatique qui amena à une désertification totale. Donc voilà, aujourd'hui on voit le désert, mais il faut avoir la capacité d'imagination pour voir que cette zone était une zone luxuriante, foisonnante de vie, de faune et de flore et d'êtres humains, de créativité avec ces peintures rupestres qui sont magnifiques. Vous en avez énormément en Algérie que vous pouvez encore voir, qui sont très très belles. Et force est de reconnaître que ce constat que fait Jean-Édouard Butcher est un peu à rebrousse-poil des certitudes de notre époque, de notre société. Des forêts luxuriantes se transformant en désert, ou encore pays de glace comme le Groenland qui connaissait la même situation luxuriante. Donc nombreux sont les exemples aujourd'hui qui vont à l'encontre du mythe communément établi d'une normalité, d'une sorte de stabilité climatique qui serait naturelle. Les tenants d'une conception figée de la nature, d'une sorte de statu quo des écosystèmes, n'ont donc finalement que peu de connaissances de l'histoire de notre planète et même de la biosphère, qu'ils souhaitent d'ailleurs pourtant sauver, ces gens-là, parfois à la manière d'une mère super protectrice qui voudrait que son enfant ne grandisse jamais et ne change pas et que ce soit toujours son petit bébé. Voilà. Donc, ce que ce livre de Butcher nous montre, d'abord, clairement, c'est que nous n'en sommes pas à notre premier épisode de réchauffement climatique, et même bien loin de là, puisque bien avant la révolution industrielle, il y a eu des périodes de glaciation et des périodes de réchauffement bien plus importantes. Donc, espérer, comme nous le dit l'auteur, conserver un milieu naturel tel qu'il est, peut être souhaitable s'il est détruit et pollué, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est la chose la plus tenable, puisque les écosystèmes évoluent. Alors ce qui est intéressant dans son livre, c'est que Butcher développe une approche assez passionnante de l'agroécologie, qui est un des grands sujets actuels, après avoir posé comme absolument nécessaire l'impératif de repenser le modèle de ce qu'on appelle l'agro-business ou l'agriculture intensive. Aujourd'hui, l'agro-business, c'est en effet une politique stérile et criminelle, en ce qu'elle met les producteurs en concurrence, détermine les prix en fonction des aléas des marchés financiers, des marchés dont le temps n'est en aucun cas celui de la production, mais celui du profit à court terme. Des marchés induisant bien sûr ce que nous vivons aujourd'hui, le fléau de la malbouffe, et de la destruction de la santé des populations, sans compter le pire des maux, la pénurie, l'inégalité, la pauvreté, la malnutrition et la famine, comme on le sait aujourd'hui. Donc ce livre amène également, du point de vue de l'Afrique, les solutions permettant d'inverser la tragédie de l'exode rural qui sévit dans les régions sahéliennes depuis les indépendances des années 60, des millions de gens s'entassant dans les périphéries des villes, détruisant les solidarités ancestrales, faisant augmenter le chômage, la délinquance, la prostitution et la criminalité, faute justement d'aménagement des territoires et de perspectives économiques à long terme. À cela s'ajoute donc ce qui nous intéresse ici, aujourd'hui dans notre émission, le problème de la désertification. On en avait parlé dans une émission sur le lac Tchad, qui avait accru l'exode et évidemment les exodes qui sont dus à l'instabilité sécuritaire. Alors oui, il faut le dire et l'affirmer, il faut aujourd'hui reverdir le désert du Sahara et changer de paradigme politique, économique et social à tout point de vue. Il faut savoir d'abord qu'il existe une convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, CLD, qui avait été adoptée à Paris 2 ans après le fameux sommet de Rio du 17 juin 1794. Il faut savoir que 193 pays font partie de cette convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Cette convention traite de la désertification comme, je cite, « la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides, sèches par suite de divers facteurs ». Pour Butcher, Jean-Édouard Butcher, le constat est catégorique. Le Sahara est un territoire désert, mais qui peut se transformer en une surface verte permettant à ses populations actuelles d'y vivre dans de bonnes conditions. Fin de citation. Alors selon lui, la création de nouvelles zones de surface verte permettra la capture de gaz carbonique atmosphérique et diminuera évidemment l'effet de serre. Elle induira la régularisation du climat local, provoquant de ce fait une diminution des écarts extrêmes des températures. Enfin, la revitalisation des sols les rendra aptes à l'habitation et à l'autosuffisance alimentaire, qui est le vrai objectif économique de reverdir les déserts. Mais un autre point est mentionné par l'auteur qui nous paraît également très important et porteur d'espoir. À l'heure où, on le sait, le Sahel plonge dans le chaos et la barbarie, du fait des avancées djihadistes en tout genre, voilà que Butcher, lui, ose cette vision un petit peu humaniste, si on peut dire. Je le cite. « Beaucoup de ceux qui entrent dans la révolte, à force de frustration, d'inaction, de désespoir, sont ceux-là même qui auraient le courage et la volonté de pionnier. L'engagement dans un travail valorisant aurait pu être l'antidote à la rupture et à la fanatisation. Une métamorphose pourrait transformer des terroristes et des casseurs en fertilisateurs, du désert. » Voilà, moi je pense personnellement qu'il n'est jamais trop tard et qu'il faut aujourd'hui lancer ce projet. Alors quels sont les nerfs de cette vraie guerre dans laquelle il faut s'engager? C'est cette guerre-là qu'il faut gagner. Eh bien, les nerfs de cette guerre sont l'humus et l'acacia. Ce sont deux exemples qu'il prend, il y en a d'autres, mais ces deux-là sont particulièrement intéressants. Alors ce que dit Butcher, c'est que, je le cite encore, l'humus, c'est-à-dire la terre vivante, est le seul substrat possible pour la conquête des sols par les plantes. C'est un mariage complexe entre les argiles du sous-sol et les substances carbonées et azotées captées par les plantes. Il est imprégné d'humidité et habité par la microfaune, les bactéries et les champignons. Il accumule sous le sous-sol l'humidité qui, hors sol ou en surface, s'évaporerait rapidement. Alors c'est à partir de cette définition de l'humus que l'auteur nous fait plonger justement au cœur de ce concept d'agroécologie. L'idée est donc d'éviter au maximum, et particulièrement dans les zones désertiques, que des territoires entiers soient contraints à recourir à la perfusion permanente de l'eau. Toutefois, pour lancer le processus agroécologique, l'apport en eau ne pourra évidemment être évité dans un premier temps. Il ajoute, Jean-Édouard Butcher, « L'adduction d'eau pourra être progressivement réduite et reportée sur des zones voisines. Plus la surface verte s'étendra et plus le microclimat humide se renforcera, stabilisé par l'eau dans l'humus. La croissance de la quantité d'humus, ajoute-t-il, est exponentielle. Si on peut augmenter la surface verte de 10% par an, en 10 ans, le territoire va grossir 2,6 fois. » Donc voilà qui est intéressant, puisque la progression est exponentielle. Or, quel est justement le héros de cette revitalisation des sols? C'est l'acacia. Il nous dit, il en existe plus d'un millier d'espèces d'acacia. Sa robustesse, sa résistance à la sécheresse, sa forte production de bois et de feuilles en font un excellent capteur de gaz carbonique et producteur d'humus. il a la particularité d'abriter dans ses racines des bactéries qui synthétisent l'azote de l'air. On a ainsi un enrichissement du sol en carbone et en azote. Et voilà, avec l'acacia, le tour est ainsi joué. Donc voilà, par-delà le concept de reverdissement du désert, l'objectif est bel et bien, faut être clair, de nourrir les populations, comme je l'ai dit, l'autosuffisance alimentaire. Donc l'agroécologie tendra inévitablement vers ce qu'on appelle l'agroforesterie, qui consiste à cultiver sous un couvert d'arbres, en fait, les interactions entre cultures basses et les arbres qui sont particulièrement judicieux, puisque les arbres, l'ombre des arbres protège justement les cultures de la sécheresse et les cultures maintiennent l'humidité justement dans les sols. Donc c'est un projet gagnant-gagnant de l'agroécologie à l'agroforesterie dont on entend de plus en plus parler et qui est un concept extrêmement intéressant justement pour l'Afrique et en particulier les zones désertiques. Donc ce qu'il faut, c'est devenir, que les Africains deviennent les médecins du sol, justement avec pour but de nourrir leur population. Nous le savons, l'humanité a besoin d'au moins doubler sa capacité de production végétale et c'est le plus grand défi avec l'eau et l'énergie du 21e siècle. Donc en 2050, il faudra nourrir convenablement peut-être 10 à 15 milliards d'êtres humains sur la planète et toutes les terres cultivables, tous les paysans du monde seront nécessaires pour ce grand projet. Mais évidemment dans des conditions plus rationnelles et plus humanistes que l'agro-business actuel. Je rappellerai en particulier qu'en 2012 en France, un candidat à la présidentielle qui s'appelle Jacques Cheminade avait évoqué un concept extrêmement intéressant qu'il avait nommé la révolution agro-biophysique, qui était justement une réforme en profondeur dont le but était de passer de l'agriculture actuelle à dominante chimique à une agriculture vivante, avec un défi exigeant, produire toujours plus afin de nourrir l'ensemble des êtres humains, mais de manière plus harmonieuse avec la nature. L'idée, c'était simplement de considérer le sol cultivable non comme un support inerte sur lequel on répand des produits à l'aveugle, mais de considérer les sols comme un produit, un processus vivant avec lequel on collabore en tenant compte de ses capacités propres en matière de productivité que de ses insuffisances, nécessitant une assistance rationnelle et bienveillante de l'homme, n'excluant pas évidemment le recours à des procédés chimiques. Donc je le cite, il disait à l'époque dans son programme présidentiel, « Si l'on examine les sols traités depuis une cinquantaine d'années avec les outils de la microbiologie, on constate que la culture excessive en labour profond, avec des apports toujours accrus d'engrais chimiques et de pesticides, leur ont fait perdre leurs propriétés microbiennes et fongiques, ce qui a induit une perte de nutriments. Sur ces sols rigides, à biomasse appauvrie, les chutes de pluie lessivent les surfaces et entraînent une érosion. » Il est donc nécessaire qu'on aide les agriculteurs à devenir les médecins du sol pour les restaurer et les préserver par des techniques respectueuses de leur vie et de leur fonctionnement en tant qu'agro-système complexe. Donc voilà, ça nécessite une véritable politique de formation dans les métiers agricoles pour les hisser au niveau des connaissances actuelles et requises, ainsi qu'une une association en fait permanente entre les agriculteurs et associés aux chercheurs et aux nouvelles découvertes scientifiques qui devront être financées par les États pour répondre aux besoins des populations. Donc Jean-Édouard Butcher, dont son livre « Verdir le désert du Sahara » n'est pas lui-même opposé à cette conception, puisqu'il dit lui-même, je le cite, « Pour l'humidification des déserts complètement minéralisés, la chimie n'est pas rejetée absolument. Bien au contraire, l'hybridation et certaines manipulations génétiques pourront permettre la création d'espèces particulièrement aptes à la colonisation du sol aride. » Donc ce qui est très intéressant dans ce livre de Butcher, que je vous conseille, c'est que l'auteur donne notamment plusieurs exemples de succès dans ce domaine d'agroécologie, agroforesterie, et en particulier l'exemple de Yacouba Sawadogo, donc du Burkina Faso, qui est surnommé l'homme qui a arrêté le désert. Vous pouvez trouver des vidéos de lui sur Internet. Donc, avec sa technique qui est originale du Burkina Faso, le zaï. Donc, je le cite, cet homme, le zaï consiste à creuser à la houe un trou dans le sol, à y introduire du compost, puis il s'agit d'y favoriser l'accès de termites du genre Trinerviterme. Ces termites ont au moins deux fonctions. Ces termites, ils creusent des galeries qui retiendront l'eau et ils favorisent la fertilité par leur déjection. Il stocke aussi l'herbe, juste sous la surface du sol. Un arbre est planté dans ce trou, l'eau est alors retenue au-delà de la saison des pluies, et la croissance de l'arbre peut se faire dans ce terrain désertique. Fort de cette technique, il a fait pousser une forêt de 40 hectares dans la région de Waiguya, et l'exode rural a cessé dans cette zone. Voilà le vrai objectif. Il a ensuite formé d'autres personnes à cette technique, au point qu'aujourd'hui on parle même de 3 millions d'hectares qui ont été reboisés et permis un vrai développement économique et social dans la région. Alors évidemment, il y a des techniques qui sont... là, c'est une technique un peu, on va dire, ancestrale, si on peut dire, mais qui fonctionne déjà, qui marche très bien. Mais on pourrait ajouter à cela des techniques modernes. Il y a une charrue qui a été développée, par exemple, la charrue Delfino, hein, d'un ingénieur italien, qui est utilisée d'ailleurs aussi dans le nord du Burkina Faso. Donc voilà, avec des technologies modernes. Et aussi, dans son livre, il évoque, je vous y renvoie, hein, des mouvements de femmes qui se mobilisent pour ces projets agroécologiques, agroforestiers, et en particulier ici des femmes au Kenya, avec Wangari Maathai, qui a fondé le mouvement de la ceinture verte et qui a permis de planter en fait plus de 30 millions d'arbres et qui lui a valu d'avoir le prix Nobel de la paix en 2004. Donc c'était vraiment un très bel exemple où les femmes, en particulier les femmes du Kenya, se sont mobilisées pour redévelopper un tissu économique et social dans des régions où l'exode rural était très important. Donc ici, d'autres exemples qui sont également très intéressants. Et il parle d'un projet dont on voulait parler aujourd'hui. On voulait y consacrer une émission complète, mais je pense qu'on va en parler maintenant. C'est le projet, justement, de la Grande Muraille Verte. Hein. Qui est le projet justement pour le reverdissement du désert et montrer que ce n'est pas une utopie. Le Sénégal et s'est beaucoup engagé à l'époque de Wade, l'ancien président. Donc un projet écologique et sociétal qui était une bande de verdure d'une longueur de 500 km, au moins pour le Sénégal, à laquelle on engage les populations. Donc, il parle de la Grande Muraille Verte. Il parle également d'un autre projet qui est l'aménagement du delta du Niger. Je vous renvoie vers l'émission sur Globe Radio que nous avions consacrée à l'aménagement du système des lacs Faguibine au Mali, qui est pareil, qui est un endroit qui pourrait devenir le grenier alimentaire, comme nous l'avions détaillé, le grenier alimentaire de toute l'Afrique de l'Ouest, où des grandes quantités d'eau sont perdues à cause du manque d'infrastructures et d'aménagement du territoire, tout simplement. Hein. Donc, et pour ce delta du Niger, Butcher nous dit tout simplement, hein, je le cite, « Si on asséchait des marées immenses qui évaporent le quart du débit du fleuve, en perpétuant la malaria, on gagnerait justement toutes les ressources en eau nécessaires pour pouvoir aménager ce système des lacs Faguibine. » Donc voilà, donc il parle aussi des solutions concernant le Nil, le canal de Jonglei, le projet Transaqua pour revitaliser le lac Tchad. On avait également consacré une émission là-dessus d'ailleurs. Pour les auditeurs qui n'ont pas pu suivre ces émissions, je rappelle qu'elles sont disponibles en nous contactant soit sur le site de Globe Radio, soit sur mon site www.afriquedufutur. Et donc voilà, l'auteur parle d'un certain nombre de projets, les chottes tunisiens pour laquelle j'ai consacré une vidéo, le doublement du canal du Nil, le projet Toshka. Et donc voilà, tout un grand projet. Donc nous ne serions vous recommander d'avoir ce livre, donc je le répète, hein, qui est Jean-Édouard Butcher, « Reverdir le désert du Sahara, des solutions pour un retour à la végétation ». Mais avant de conclure cette émission, je voulais quand même donner quelques informations sur ce projet justement de Grande Muraille Verte, parce que c'est un des plus grands projets pour reverdir, arrêter la désertification du désert du Sahara et recréer vraiment un poumon de vie dans l'ensemble de l'Afrique presque, hein, puisque vous allez le voir, ça concerne. Donc c'est une initiative, la Grande Muraille Verte, dont on parle depuis très très longtemps, hein, qui est le but de créer une ceinture de forestation pour lutter contre le désert, et qui a été remis justement un petit peu au goût du jour cette année, donc le 11 janvier 2021, sous l'égide de notre cher président Emmanuel Macron, qui est toujours très très fort en discours, pour présenter bien les solutions, mais très très peu fort en acte pour les mettre en place. Mais toujours est-il ce projet de Grande Muraille Verte a été rediscuté justement au One Planet Summit, donc qui a eu lieu en janvier de cette année, qui était consacré à la biodiversité. Donc, à la demande de la France, lors de ce sommet, hein, pas simplement la France, d'ailleurs du Royaume-Uni, du Costa Rica, le club de plein de pays, d'une cinquantaine de pays, dont la Chine, on finit justement par signer un traité, un plan mondial visant à créer des zones protégées couvrant 30% des terres et des océans de la planète. Donc, lors de cette conférence, Antonio Guterres, qui est le secrétaire général des Nations Unies, avait mis un peu les pieds dans le plat en disant, je le cite, « Nous avons jusqu'à présent détruit notre planète en en abusant comme si nous en avions une seule. Nous avons empoisonné l'air, la terre et l'eau et rempli nos océans de plastique et maintenant la nature revient à sa charge. » Donc une des grandes annonces de ce One Planet Summit, donc qui a eu lieu en janvier 2021, a été la relance de cette fameuse grande muraille verte. Donc qui n'est pas un projet nouveau. Et ils ont annoncé la promesse, donc ils ont fait la promesse d'investir 12 milliards d'euros pour le projet de la Grande Muraille Verte. Alors il faut savoir que le principe de la Grande Muraille Verte avait déjà été défendu dans les années 80 par le grand héros panafricain Thomas Sankara, donc du Burkina Faso, et qui avait été justement proposé, qui avait repris un projet qui avait déjà été défendu dans les années 70, par un économiste américain qui s'appelait Lyndon LaRouche et son institut, l'Institut Schiller, qui avait justement organisé une grande conférence sur la muraille verte dans les années 80 et les années 90. Donc, que disait Thomas Sankara ? Il disait, je le cite, à l'époque, alors il a dit ça en février 1986, lors de la conférence Silva sur l'arbre et la forêt. Je cite Thomas Sankara. « Je ne suis ici que l'humble porte-parole d'un peuple qui refuse de se regarder mourir pour avoir regardé passivement mourir son environnement naturel. » Donc voilà qui était clair. Alors Sankara fut en effet le premier président africain à sensibiliser la population du Burkina Faso au problème de la désertification et il a lancé une campagne massive à l'époque dans son pays de reforestation avec un slogan qui a été très efficace qui était « un village, un bosquet ». Donc des millions d'arbres à l'époque ont été plantés et le projet d'une ceinture verte autour de la ville de Ouagadougou avait même été lancé. Et Sankara avait de plus grandes ambitions puisqu'il avait été voir tous les présidents voisins pour justement déjà la réalisation de cette grande muraille verte transnationale. Donc voilà, il était très engagé. À l'époque, tous les enfants dans chaque village, vous imaginez, chaque enfant allait planter son arbre, un village, un bosquet, pour pouvoir justement lutter contre le désert avec un effet pédagogique, formateur, etc. Donc voilà, Thomas Sankara, on sait malheureusement où ça l'a mené. Toutes ces ambitions pour développer son peuple l'ont donc conduit à se faire malheureusement assassiner par les réseaux de la France-Afrique. Donc la muraille verte dans son projet, ça devait quand même relier Dakar à Djibouti sur une distance, accrochez-vous bien, de plus de 7000 km et concerner pas moins de 11 pays. Donc ça partait du Sénégal, ça passait par la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Soudan, l'Éthiopie, l'Érythrée pour enfin aboutir à Djibouti. Donc vous voyez un petit peu toute cette muraille tout le long d'ouest en ouest sur le continent africain. Voilà, pour évidemment atténuer bien sûr les effets de la désertification, mais surtout créer un ensemble d'activités agro-silvo-pastorales, génératrices évidemment de revenus et d'emplois massifs. Donc voilà, il y a eu plusieurs fois ce projet qui a été remis de l'avant, avec l'idée de reverdir plus de 100 millions d'hectares le long de la bande sahélienne que je viens de vous citer, qui passe par tous ces pays qui traversent le continent d'est en ouest. Et aujourd'hui, projet qui est revu un peu à la baisse, parce que le projet original, justement dans la tête des grands penseurs panafricains, c'était 8000 km sur 50 km de large. Aujourd'hui, on ne parle plus que de faire que 15 km de large dans le sommet One Planet Summit de Macron. Donc on a déjà réduit la surface de quasiment par plus de deux, quoi. Donc le projet, malheureusement, s'est un peu enlisé, même au Sénégal, où ça avance très rapidement. Et aujourd'hui, d'après les dernières estimations, la grande muraille verte n'a été réalisée qu'à hauteur de 4% justement sur les 100 millions d'hectares qui seraient envisagés pour réaliser définitivement ce projet. Et bien sûr, ce projet se heurte aux problèmes de gouvernance, de corruption, des moyens qui ne sont pas alloués au bon endroit, sans parler évidemment de la crise sécuritaire qui a lieu dans toute cette bande sahélo-sahélienne et qui est une tragédie humaine aujourd'hui au cœur de l'Afrique. Donc ce projet est vraiment la solution justement pour éduquer, former, employer les gens et les jeunes en particulier, qui sont très nombreux dans cette région, leur redonner un espoir, un objectif d'industrialisation et de développement de leur pays, leur redonner justement, comme le nom de notre émission l'indique, revoir l'Afrique avec les yeux du futur. Donc lors de ce sommet, pour conclure, je terminerai par une citation du président donc, de la Banque africaine de développement, qui est le docteur Akinwumi Adesina, donc qui lui a le chic parfois pour mettre un peu les pieds dans le plat. Et donc ce qu'il a dit lors de ce sommet, c'est que, je cite, « En construisant la grande muraille verte, nous allons évidemment sécuriser le Sahel, réduirons le changement climatique, diminueront les migrations et amélioreront la vie des gens. La Banque africaine de développement a lancé un programme « Desert to Power », donc le désert pour l'énergie, de 20 milliards de dollars dans différents projets. Cela permettrait de fournir de l'électricité à 250 millions de personnes. J'ai bien dit 250 millions de personnes, sachant que 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité en Afrique. Donc je reprends la citation. Cela permettra de fournir de l'électricité à 250 millions de personnes et de contribuer à préserver la Grande Muraille Verte. Car s'il n'y a pas d'accès à l'énergie, je vous renvoie vers notre émission sur le nucléaire, la Grande Muraille Verte ne sera plus que des arbres attendant d'être transformés en charbon de bois. Voilà pourquoi il faut vraiment un plan intégré global, eau, aménagement pour l'eau, aménagement pour l'énergie, aménagement pour l'agroécologie et l'agroforesterie et l'autosuffisance alimentaire. Et ce projet, c'est vraiment un des grands projets qui nous tient à cœur ici, qui nous permet de voir ce que sera le continent africain demain dans ce grand, dans cette guerre qui est la vraie guerre qu'il faut mener contre la désertification, et pour nourrir la population non seulement africaine, mais la population mondiale dans les 50 à 100 prochaines années qui viennent. Voilà aujourd'hui pour notre émission. J'espère que ça vous a intéressé. Vous êtes sur Globe Radio. Je suis Sébastien Périmoni et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission.